Je pourrais peut-être dire quelques mots personnels. Moi-même, je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique.
Alexandre Grothendieck, conférence du CERN, 1972.
Et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont faite les collègues avec lesquels j'ai été en contact, semblait très éloignée de toute espèce d'application pratique. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis 2 ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet et que je suis arrivé à une position depuis un an et demi. En fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien.
Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Une grande traversée de Marie Durieux, réalisée par Gaël Gillon. Épisode 3. Rompre avec la science. Dans l'épisode précédent, Alexandre Grothendieck, entouré de ses élèves et de ses collaborateurs à l'Institut des hautes études scientifiques, consacrait sa vie aux mathématiques. En 1966 à Moscou, il se voit décerner la plus prestigieuse récompense académique, la médaille Fields. Pourtant, il ne se rend pas à la cérémonie. Il n'est pas question pour lui de fouler le sol soviétique sur lequel son père, militant anarchiste, a été emprisonné. Il laisse le soin au directeur de l'IHES d'aller la chercher pour lui. On dit également que c'est par solidarité avec les écrivains Andrei Sinyavsky et Yuli Daniel que Grothendieck ne va pas récupérer sa médaille. En cette même année 1966 à Moscou, se tient leur procès, l'un des plus retentissants de l'histoire de la dissidence en URSS. Ils sont lourdement condamnés pour avoir publié à l'étranger des écrits satiriques anti-soviétiques. Yegor Gran, écrivain et fils du dissident Andrei Sinyavsky, nous fait part de la mobilisation des intellectuels occidentaux lors du procès de son père.
À l'époque, évidemment, ce qui marque surtout le milieu littéraire, c'est les grands noms, Eugène Ionesco, Arthur Miller et d'autres. Des universitaires se sont mobilisés par ailleurs, donc des gens qui n'étaient pas très connus, mais de toutes les professions. Donc il y avait des sociologues, des physiciens et j'imagine des mathématiciens. Moi, je n'avais pas entendu du tout parler de Grothendieck jusqu'au moment où j'ai reçu une lettre très étrange. Alors, c'est une lettre que je reçois, qui est postée le 18 décembre de l'année 2000, donc j'ai dû la recevoir quelques jours après, que je suis censé lire à mon père ou à ma mère. Et voilà, et suit donc une lettre de 9 pages absolument hallucinante, où j'apprends que donc ce grand mathématicien trimballe toujours une sorte de culpabilité de plomb, qui le torture littéralement, parce que c'est ce que je devine entre les lignes. Et voilà, donc mon père étant déjà décédé, je n'avais pas le moyen de lui faire lire cette lettre. Je comprends bien que j'ai face à moi une personne extrêmement torturée. Alors, le 16 décembre 2000, cher Andrei Donatovitch Sinyavsky, cher Yuli Markovitch Daniel, vous ne connaissez probablement pas mon nom, Alexandre Grothendieck, étant vous écrivain et moi mathématicien. Par contre, vos deux noms me sont bien connus, inoubliables depuis votre procès en Union soviétique en février 66 et les condamnations iniques à 7 et 5 ans de travaux forcés à un régime sévère. J'ai gardé un vif souvenir de l'émotion que j'ai ressentie alors, un sentiment de honte aussi, en tant qu'intellectuel, que de telles choses sont possibles dans ce monde où nous vivons, bon gré, mal gré. Ce sentiment de honte s'est considérablement accru en moi, en tant que mathématicien, du fait qu'en cette même année, quelques mois à peine après cette condamnation, était prévu le Congrès international des mathématiciens à Moscou, et que ce congrès n'a pas été annulée ou reportée à une date ultérieure dans un pays différent, en protestation contre cette condamnation. Je vous écris à présent avec 34 années de retard, hélas, pour vous exprimer mon profond regret et mon repentir pour la mollesse de mon attitude alors. De ne pas m'être désolidarisé alors, de façon aussi retentissante que possible, de la communauté mathématique à laquelle je m'identifiais jusque-là, tant bien que mal, qui par ce congrès couvrait l'iniquité de la répression policière soviétique et qui, aux yeux de tout être spirituellement vivant, se couvrait de honte. Je vous dois des précisions sur ce qui s'est alors passé exactement me concernant. Passionné par le travail mathématique, immergé presque totalement dans les maths, je n'avais pas une claire notion dans quel monde je vivais et vis encore, ni surtout de mes devoirs élémentaires comme être humain, sans plus.
...1966 est une année importante pour Grothendieck. Elle le tourmentera longtemps. Symbole de son apogée dans le monde mathématique, elle marque aussi le début d'une nouvelle prise de conscience. Le passé de ses parents et leurs engagements politiques semblent revenir le hanter. Son antimilitarisme se révèle à la faveur d'une nouvelle guerre. Après avoir refusé d'aller chercher sa médaille Fields en URSS, il s'en prend à l'autre grande puissance impérialiste de l'époque, les États-Unis d'Amérique. Grothendieck a de nouveaux rendez-vous avec l'histoire.
Bleu, blanc, orange. Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation. En terminologie militaire, il s'agit d'armes de harcèlement. Leur usage répond à un double objectif, détruire le couvert végétal pouvant servir d'abri et affamer l'adversaire en détruisant ses récoltes, en stérilisant les sols. Ces produits dérivés du chlore sont analogues aux herbicides vendus dans le commerce. Depuis 1961, les Américains en ont déversé 50 000 tonnes au Sud-Vietnam. Les Américains utilisent une deuxième gamme de produits chimiques, les gaz lacrymogènes CS1 et 2, classés parmi les armes réputées incapacitantes. On les utilise à des fins dites humanitaires, puisqu'elles permettent théoriquement de débusquer l'ennemi sans le tuer. Mais le monde scientifique pousse un cri d'alarme. 70 savants venus de 12 pays, y compris les États-Unis et le Vietnam, viennent de se réunir près de Paris pour dénoncer la menace que fait peser sur la population vietnamienne l'usage intensif de produits chimiques dont on ne connaît pas tous les effets sur l'équilibre de la nature.
Tous les scientifiques qui sont présents à cette conférence sont profondément conscients de leur devoir vis-à-vis de leurs confrères et vis-à-vis de l'opinion en général pour faire tout ce qui est en leur possible pour éviter cette guerre chimique qui est une véritable perversion de la science et des applications de la science.
En novembre 1967, Grothendieck quitte Paris pour le Vietnam où il enseigne sous les bombes. La bulle d'abstraction et de pureté mathématique dans laquelle il était enfermé est en train d'éclater.
Et quelles autres objections vous faisiez? Ah, on doit la vie à la science. Je crois qu'il y a des choses utiles à dire à ce sujet, oui. à supposer que certains ici doivent la vie à la science, on peut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens au Vietnam qui doivent également leur mort et leur mort sous des conditions atroces à la même science. On peut dire...
Centre européen de recherche nucléaire, 27 janvier 1972. Sur une bande magnétique, une auditrice enregistre la voix d'Alexandre Grothendieck. C'est l'une des seules archives audio qui existent de lui. Ce jour-là, des centaines de techniciens et de physiciens se pressent pour écouter dans le grand amphithéâtre le mathématicien venu parler d'une question qui fâche. Allons-nous continuer la recherche scientifique ?
Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c'est de constater à quel point les techniques scientifiques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre du Vietnam. J'ai été au Vietnam du Nord moi-même, par exemple, et j'ai pu discuter sur place avec les intéressés sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple, qui éclatent pour qu'elles puissent mieux frapper les populations civiles, qui éclatent en l'air avant même de toucher le sol, pour qu'elles puissent pénétrer, pour que les billes qui font comme ça un mouvement de spin très rapide, pour mieux déchiqueter les chairs, pour que ces billes puissent pénétrer à l'intérieur des abris anti-aériens qui sont creusés un peu partout le long des rues et le long des routes. Le simple fait, d'ailleurs, que la technologie militaire au Vietnam soit plus orientée vers une mutilation de la population que pour la tuer directement, parce qu'une personne qui est mutilée demande des soins de beaucoup d'autres gens pour la maintenir en vie, pour la soigner, alors qu'une personne tuée en demande très peu. Donc c'est un certain nombre d'aspects assez atroces de la technologie liés véritablement à une recherche à l'état actuel de la science.
Johanna Grothendieck, fille d'Alexandre.
Alors, voilà la photo du Vietnam.
Et vous vous souvenez du premier voyage de votre père au Vietnam ?
Ah oui, c'était en 67. Et du coup, je me rappelle surtout de son retour, parce que son départ, je ne me rappelle absolument pas. Je me rappelle très bien de son retour. Il avait ramené, bah, évidemment, le chapeau vietnamien en paille de riz, mais aussi un autre chapeau fait avec de la paille d'une autre céréale qui était enroulée. Comme... C'est une technique dont on faisait aussi des paniers ici en France. Et en fait, ça fait, on les roule en boudin et on les coud après, ces boudins. Et ces chapeaux-là, ils avaient une raison d'être. C'est qu'ils étaient la parade des Vietnamiens qui étaient très pauvres contre les bombes à fragmentation. Et les Vietnamiens, ils avaient trouvé donc qu'avec ces chapeaux en paille qui étaient épais, hein, ça devait faire 2 cm et c'était très très dense, et bien au moins ce qui arrivait par en haut, et bien ça leur rentrait pas dessus, quoi. Il avait aussi rapporté un trophée, que, alors lui rigolait parce que pour lui c'était vraiment pas quelque chose qu'il avait envie de garder, mais il avait conservé par... respect pour l'esprit du don qui régnait quand on lui avait offert. C'était la plaque d'immatriculation d'un avion américain qui avait été descendu par les Vietcong. Et du coup, il récupérait absolument tout, le métal, les pneus, absolument tout ce qui était tombé dans la jungle était récupéré pour resservir. Mais ça, c'était un trophée. Donc, je me rappelle, c'était monté sur une plaque en plexiglas avec une espèce de tige de fer. Il y avait ce morceau de la carlingue de l'avion où figurait son numéro d'immatriculation, comme une prise de guerre, finalement. Bon, lui, il était quand même très antimilitariste. Mais là, il s'était engagé du côté contre Goliath, on peut dire.
Et est-ce que vous avez pu constater sa politisation progressive dans les années 60?
Et j'ai l'impression que sur le plan de la politisation, il avait quand même une conscience anarchiste qui était très ancrée chez lui, bon, de par son héritage familial. Et déjà dans les années 60, il avait commencé à s'engager d'une façon qu'on n'appellerait pas militante, mais il avait participé à l'aide de personnes espagnoles qui étaient de la Retirada, pour lesquels il a acheté en fait une ferme dans la région de Toulouse parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et j'ai encore des lettres en fait où il parle de ses achats.
Céline Pessis, historienne des sciences et de l'environnement.
Grothendieck, il a une posture très individualiste à ce moment-là. Il va se rendre tout seul au Vietnam à la fin de l'année 1967, où il va constater l'étendue de la guerre et la place qui tiennent aussi les sciences et les technologies. Et en particulier, tout ce qui est les débuts de la microélectronique. Donc c'est des bombes téléguidées, c'est des infrastructures au sol qui repèrent tous les mouvements. Et il va décrire l'horreur de cette guerre. Donc il est reçu notamment à l'université d'Hanoï qui est évacuée. Et donc il entreprend ce voyage relativement solitairement, alors qu'il y a plein de mouvements d'opposition de scientifiques à ce moment-là à la guerre du Vietnam. À son retour en France, il fait des conférences sur le sujet, à nouveau assez seul, en refusant de travailler avec ses collègues sur ces questions.
Et à partir de quel moment sa démarche un peu individuelle devient plus collective, enfin, qu'est-ce qui déclenche ça?
Alors, il se rend aux États-Unis, donc c'est un mathématicien qui voyage beaucoup, et il se rend aux États-Unis en 1969, peut-être un peu avant aussi, et il va rencontrer des scientifiques engagés, donc concrètement, ces scientifiques, durant la guerre du Vietnam, dans le sillage des mouvements pour les droits civiques, ils vont s'opposer à toute forme de collaboration avec l'industrie chimique, informatique, et avec donc qui est engagée dans la guerre du Vietnam, et toute forme de collaboration encore plus directe avec les militaires.
Mais là, Grothendieck, a priori, il fait des maths pures, enfin déconnectées du monde réel, et donc qu'est-ce qui l'amène, lui, à critiquer sa discipline, ou en tout cas à s'engager dans ce sillage-là?
Les mathématiciens de survie, puisque Grothendieck ne sera pas seul dans ce cheminement assez rapide, ça va être de mener une critique aussi de ce qu'ils vont appeler l'idéologie de la science pure, qui serait un petit peu comme un paravent, une protection derrière lesquelles se placeraient les scientifiques pour se cacher certaines implications de leur travail et pour préserver une sorte d'image mythifiée de la science.
Pourquoi faisons-nous la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être à longue échéance du moins, que la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager, en tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, lorsqu'on parvient à arracher une réponse dans des discussions publiques ou privées, généralement, ce qu'on entend, c'est, par ordre de fréquence de réponse, la recherche scientifique, j'en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que j'y trouve une certaine satisfaction intellectuelle. Et puis, parfois, les gens disent, eh bien, je fais la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre, parce que je suis payé pour ça.
Alors, Grothendieck, dans un premier temps, avant de dire il n'y a peut-être pas grand-chose à garder des mathématiques, va s'intéresser à faire des mathématiques qui servent positivement l'humanité, et notamment à faire des mathématiques au service de la biologie. Donc la biologie, c'est un petit peu la science qui est épargnée par cette autocritique des sciences par rapport à la physique. Il y a l'idée de réorienter la science pour la mettre au service de minorités, des femmes, des opprimés. Faire une science au service de la vie, on dit à ce moment-là.
Quand Alexandre Grothendieck découvre que l'IHES est partiellement financé par des fonds provenant du ministère des Armées, c'est la goutte de trop. La somme n'est pas énorme, mais le symbole est là. Les relations avec le directeur de l'Institut n'ont jamais été aussi tendues. Grothendieck veut que l'IHES renonce à ce financement mortifère. Le 9 juin 1970, Léon Molchan reçoit la lettre de démission du premier professeur qu'il avait engagé. Le plus brillant élève de Grothendieck, Pierre Deligne, fraîchement embauché par l'IHES, ne fait rien pour le retenir.
Je n'ai eu à aucun moment l'impression que mon ami Pierre se sentait le moins du monde mis en cause par ma dissidence. Bien au contraire, celle-ci a été la grande aubaine, comme il n'aurait jamais sans doute osé la rêver, pour se débarrasser élégamment de la présence d'un maître un peu trop présent dans cette institution où il venait, à l'âge de 25 ans, d'accéder à une des situations les plus enviées, ou du moins les plus enviables, dans le monde mathématique. Mais l'élève ne peut dépasser le maître en le désavouant son fort intérieur, en s'efforçant en secret, devant soi-même comme devant autrui, d'effacer toute trace de ce qu'il a apporté, que l'apport ait été pour le meilleur ou pour le pire. Pas plus que le fils ne peut véritablement dépasser le père en le désavouant. Et j'ai senti aussi, obscurément, que ce désaveu secret de ma personne et d'un rôle que j'avais eu dans des années cruciales de sa vie était aussi, plus profondément, un désaveu de lui-même.
Récolte et semaille, autobiographie d'Alexandre Grothendieck. Pierre Deligne, comment vous l'avez interprété, ce départ ?
Avec tristesse, mais avec le sentiment qu'il fallait faire ce qu'on pouvait pour que ce qu'il avait mis en marche continue. Donc j'ai repris le séminaire qu'il donnait à l'IFES. Son espoir, j'imagine, c'était que quand il a déclaré quitter l'IFES à cause de cet argent militaire, il espérait que les autres mathématiciens démissionnent aussi et que ça oblige à des changements. Mon point de vue, c'était que l'IFES était quelque chose de précieux, qu'il fallait au contraire tout faire pour que ça subsiste, et donc il n'était pas question que je démissionne. Il a considéré ça un peu comme une trahison. Comme les arguments étaient bons, les gens devaient être d'accord. Et en mathématiques, ça marchait très bien. Quand il s'agissait de questions non mathématiques, ça ne marchait pas du tout. Et pour lui, c'était extrêmement pénible. Une autre chose qui a été très pénible pour lui, c'est qu'au moment de mai 68, il a compris qu'on le considérait comme ce qu'on appelle un mandarin. Et il ne se voyait pas du tout comme ça. Donc là, ce sont deux choses qui ont été un déclencheur pour son retrait des mathématiques, que j'ai beaucoup regretté.
Avec l'aide de son collègue mathématicien Jean-Pierre Serre, et toujours auréolé de son prestige, Grothendieck obtient pour 2 ans un poste de professeur invité au Collège de France. Dans sa lettre de candidature, il déclare que son grand chantier de géométrie algébrique est loin d'être achevé. Mais comme il l'écrit, l'extraordinaire crise écologique que nous aurons à affronter dans les décennies qui viennent rend peu probable qu'il le soit jamais. 1 mois seulement après son départ de l'Institut des hautes études scientifiques, alors qu'il est à Montréal pour une conférence, il fonde avec un groupe de scientifiques le mouvement Survivre et Vivre. Premier groupe d'écologie politique français, organisé autour d'un journal et de groupes d'action locaux. Voici comment Grothendieck présente les buts du mouvement. Nous sommes en 1971, à Bugey, non loin de Lyon. Il participe à une manifestation anti-nucléaire.
Le mouvement Survivre a été démarré par les scientifiques, mais il n'est pas restreint à des scientifiques, c'est un mouvement interprofessionnel et international, parce que nous considérons que les problèmes écologiques actuels et les problèmes politiques qui sont inséparablement liés sont de nature internationale et de nature interprofessionnelle, ils concernent tout le monde au même titre. D'autre part, puisque ce mouvement a été démarré par des scientifiques, ceci nous donne quelques caractères spécifiques. Je crois que nous serions, par exemple, plus particulièrement bien placés pour dénoncer les méfaits du scientisme, qui peut être considéré comme une sorte de religion universelle qui a remplacé la religion traditionnelle, et qui est actuellement une des forces négatives les plus puissantes, je crois, du point de vue idéologique, qui mène le monde.
Aux côtés de 2 autres bourbakistes, Pierre Samuel et Claude Chevalet, et de jeunes mathématiciens, Grothendieck entame une critique des sciences dénonçant les impasses de décennies de croyances dans le progrès technique. Grâce à Survivre et Vivre, il attire autour de lui toute une nébuleuse écolo aux intérêts variés, de l'agriculture biologique au mouvement anti-nucléaire jusqu'aux médecines alternatives et à la critique des technosciences.
Le mouvement Survivre va vraiment faire son apparition publique lors du congrès de Nice en 1970, où Grothendieck va distribuer les premiers numéros de Survivre et essayer de convaincre la communauté mathématique de refuser toute collaboration avec les militaires. Et Grothendieck, à ce moment-là, fait un peu scandale, puisque c'est un colloque qui a été organisé par Jean de Dieudonné, donc son plus proche collaborateur, et qui va en perturber le fonctionnement. Il va notamment, par exemple, interrompre un mathématicien pour lui demander s'il a une idée des conséquences de ses travaux et s'il peut y avoir des applications militaires. Ça va être vraiment le type d'engagement des débuts de Survivre. C'est vraiment porter la subversion au sein des institutions scientifiques. Et Grothendieck en sera un grand spécialiste durant quelques années.
Finalement, de par sa propre logique interne, par l'évolution de la méthode analytique, on est arrivé à un point, je crois, où, indépendamment de la question de crise écologique, on est arrivé à une crise de la connaissance. En ce sens, je crois que s'il n'y avait pas eu la crise écologique, d'ici 10 ou 20 ans, on se serait tous aperçus qu'il y a une profonde crise de la connaissance, même au sens de la connaissance scientifique, en ce sens qu'on n'arrive plus à intégrer dans une image cohérente une vision du monde, puisque après tout, c'est à ça que nous voulons arriver, à une vision de la réalité qui nous permette d'interagir favorablement avec elle à partir de nos petites tranches de spécialité. Et je suis convaincu qu'on peut surmonter ces limitations de la science actuelle, qu'on peut donc développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs. La science ne serait plus la propriété d'une caste scientifique, la science ce serait la science de tous. Elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l'exclusion de l'immense majorité de la population, elle se ferait sur les champs, dans les jardins, au chevet des malades, par tous ceux qui participent à la production de la société, c'est-à-dire la satisfaction de nos besoins véritables, c'est-à-dire en fait par tout le monde.
Jean-Paul Malrieux, physicien et membre du groupe Survivre et Vivre. Nous le retrouvons dans la communauté qu'il a fondée dans les années 70 à une petite heure de Toulouse.
Il avait une telle aura, je ne connaissais pas mes copains à l'école normale. Les matheux, y compris de très très bons matheux, me disent « Grothendieck nous écrase, on va au séminaire ». Mais un séminaire de lui, il me faut une année pour le comprendre. Donc il avait cette espèce de stature surplombante. Donc je l'ai vu et puis je suis pas matheux, je suis physicien. Je ne baignais pas dans cette... Enfin si, de toute façon... En France, la hiérarchie des sciences, elle est très nette. On est toujours comme Auguste Comte. Il y a le dégradé depuis la pureté des mathématiques vers les zones plus impures de la physique, puis de la chimie, et enfin de la biologie. Donc, quelque part, on est dominé par quelqu'un qui avait une stature de géant pareil. Après, il était simple, très...
Au sein du mouvement, il était comment, du coup ?
Pas trop autoritaire.
Donc Grothendieck, lui, il est personnellement un peu profondément antimilitariste, mais c'est pas du tout quelque chose qui l'avait emmené à prendre des positions publiques. Mais par contre, le monde de l'antimilitarisme est un monde fortement politisé et un monde pré-écologiste, en fait. C'est notamment tout le mouvement antinucléaire. Les personnes qui vont porter cette thématique, c'est également les objecteurs de conscience, qui restent un petit monde, mais des fortes personnalités, qui se développent donc, au départ contre la guerre d'Algérie. Du coup, durant la guerre du Vietnam, on a un regain de l'objection de conscience. Et Grothendieck va rencontrer ces gens-là. Donc, il s'ouvre aux questions environnementales aux États-Unis aussi. Mais en France, c'est des rencontres qui vont l'amener à faire ce basculement, en fait. Et en particulier, ça va être dans le mouvement antinucléaire, c'est un Jean Pignereau, un Pierre Fournier. Pierre Fournier, donc, qui était journaliste à Charlie Hebdo, puis le fondateur de La Gueule Ouverte en 1970, a qualifié Survivre de laboratoire de la révolution écologique. Survivre, c'est la première revue écolo à grand tirage, avant La Gueule Ouverte en particulier, et qui a un ancrage militant et local, parce qu'il y a des groupes locaux de Survivre importants.
Moi, j'étais sensible à la question écologique. Et il me semblait que les questions écologiques débouchaient sur une mise en cause radicale des présupposés réducteurs que pratiquait l'Occident dans sa quête de progrès, de maîtrise indéfinie de la nature et des êtres humains. Donc moi, je me suis retrouvé très bien là, dans ce groupe-là. Il y avait aussi un courant avec la gueule ouverte. Il y avait un grand public qui était susceptible d'être intéressé par ces questions, par ces critiques, par les problèmes qui étaient soulevés avec le nucléaire, mais aussi avec la pollution, avec le mode de production industrielle et agroalimentaire. On a donc constitué à Paris, avec Survivre et Vivre, on était une espèce de un groupe, on se réunissait régulièrement autour du journal. Je crois que l'écho qu'avait le bulletin de Survivre et Vivre, qui était quand même bien diffusé, je pense qu'on a diffusé certains numéros à 30 000 exemplaires. Je vois que dans les milieux un peu marginaux, critiques, qui ont essaimé à travers le territoire français après 68, la littérature de Survivre avait beaucoup avait de l'impact. À côté de ça, c'est une époque dans laquelle il y a des quantités de petits journaux éphémères qui apparaissent. Et notre journal Survivre et Vivre, on avait ajouté et vivre à Survivre, qui était le truc initial, un peu à cause de nos accointances situationnistes ou qualitatives. Et on ne voulait pas rester dans les impératifs de la survie. Donc la question de la qualité de la vie nous paraissait vraiment importante.
Au début, nous étions, si on peut dire, overwhelmed, comment est-ce qu'on dit, complètement écrasés par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés, de telle façon qu'il semblait impossible de toucher à aucun d'eux sans, en même temps, amener tous les autres. Et finalement, on se serait laissé aller à une sorte de désespoir, de pessimisme noir, si on n'avait pas fait le changement d'optique suivant. C'est que, à l'intérieur, effectivement, du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur d'un type de civilisation donnée, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, eh bien, il n'y a pas de solution possible. L'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifique, si vous voulez, est telle qu'il n'y a pas d'issue possible. Au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux arriver à une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. C'est ça le changement d'optique extrêmement important. Pour nous, la civilisation dominante, la civilisation industrielle, est condamnée à disparaître dans un temps relativement court, dans l'espèce de peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, une génération, deux générations, cet ordre de grandeur. Parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles. Et nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante, être nous-mêmes partie intégrante d'un processus de transformation, des ferments de transformation d'un type de civilisation à un autre, que nous pouvons commencer à développer dès maintenant. Et dans ce sens, le problème de la survie pour nous a été, si on peut dire, dépassé et est devenu celui le problème de la vie, c'est-à-dire transformer notre vie dans l'immédiat. Et de telle façon qu'il s'agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d'être vécues et qui, d'autre part, soient viables à longue échéance, qui puissent servir comme des points de départ pour l'établissement de civilisations au pluriel, post-industrielles, de cultures nouvelles.
68, en fait, ça va être une onde de choc décalée pour lui, finalement, puisque ça va être au début de Survivre. Les autres mathématiciens vont l'amener à prendre conscience de la position sociale qu'il avait au sein du monde des maths, où il était un génie en fait très méprisant pour tous les autres. Et donc cette critique des mandarins de mai 68, ça va l'atteindre en fait avec quelques années de retard, mais ça va l'atteindre très fortement dans ce tout début des années 70. Et lui-même va basculer en quelque sorte, puisqu'il avait une conception de la recherche scientifique et de la communauté mathématique. Il y a un beau texte qui décrit ça, et qui était celle du groupe Bourbaki, qui était une vision très hiérarchique, très élitiste, dont Chevalet était un bon représentant aussi. Hein. Et Grothendieck disait, il avait une théorie, c'était qu'il partageait avec Jean Dieudonné, où il y avait le marais, il appelait ça, les mathématiciens, les petites mains, les mauvais mathématiciens, les de tous les jours, les tâcherons de la science. Et il y avait une deuxième catégorie qui était les scientifiques moyens, médiocres, qui eux devaient avoir un rôle de caisse de résonance, et il y avait les grands scientifiques, dont lui évidemment, qui étaient les génies. Et ça, Grothendieck va rompre complètement avec cette conception, et il va s'auto-critiquer comme ayant eu un rôle social très oppressif pour ses collègues.
Mais c'est une chose que j'ai découverte avec stupéfaction, parce qu'on n'en parle pas, parce que entre, disons, entre mes élèves et moi, sans même que je m'en aperçoive, je pensais qu'il y avait des relations, disons, spontanées et égalitaires. En fait, c'était une illusion dans laquelle j'étais enfermé. Il y avait relations hiérarchiques, et les mathématiciens qui étaient mes élèves, ou qui se considéraient comme moins bien situés que moi, et qui ressentaient, disons, une aliénation dans leur travail, eh bien, ils n'auraient absolument pas eu idée de m'en parler avant que, de mon propre mouvement, je quitte le ghetto scientifique dans lequel j'étais enfermé et j'essayais de parler avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu, ce milieu de savants ésotériques qui faisaient de la haute mathématique.
Martin Handler, mathématicien et historien des maths.
Alors Grothendieck lui-même a été un inspirateur absolument incroyable, mais aussi quelqu'un d'une exigence liée à sa force de travail absolument incroyable. Et en effet, il a donc animé un séminaire à l'IHES où il avait été nommé professeur. Et si j'ai bien compris, l'ambiance à ce séminaire était absolument terrifiante.
C'est-à-dire ?
Il y avait le maître, il y avait les disciples en admiration qui avançaient leurs idées. Puis si ça ne collait pas, le maître leur faisait sentir que c'était pas, enfin, quelque chose comme ça, quoi, que c'était pas des bonnes idées, enfin bon, donc il y avait.
Et donc lui-même s'est fait rattraper par une forme d'élitisme mathématique.
Enfin c'était bon, quand moi j'étais étudiant, la géométrie algébrique c'était le truc le plus chic, clairement.
Et actuellement c'est encore très chic?
Ah, ça reste très chic, ouais. Mais bon, les choix qui sont ouverts aux étudiants sont quand même plus ouverts. En France, s'est développée une école de mathématiques appliquées qui est maintenant extrêmement forte en analyse, en probabilité. Donc, les choses sont plus ouvertes et dans une certaine mesure, le programme bourbakiste, proprement bourbakiste de structure, ou le programme, on peut dire, post-bourbakiste de catégorie, a toujours une influence extrêmement forte, mais seulement sur une partie des mathématiques, et le jeu est plus ouvert qu'à l'époque.
Alors, ceci concernant le plaisir que nous prenons à faire de la recherche scientifique, je sais qu'il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépens d'une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen. Il y a un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites, disons, de la communauté scientifique, entre guillemets, de l'ensemble des scientifiques, à savoir que ces autres voltiges de la pensée humaine, elles se font aux dépens de l'ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir, en ce sens que dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable, c'est le savoir scientifique. C'est la connaissance scientifique.
À force de penser contre sa discipline et contre son milieu, Grothendieck se voit de plus en plus rejeté par ceux qui l'avaient accueilli à bras ouverts. Il provoque, il agace.
Jean Le Ray, dont il avait suivi les exposés en 1948, alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune mathématicien à Paris, recommande à ses collègues de rejeter la candidature de Grothendieck à un poste permanent au Collège de France. Les divers débats provoqués par ces prises de position militantes au sein de la communauté montrent, selon Jean Le Ray, avec quelle violence dramatique la puissante personnalité de Grothendieck se heurte à l'obsession que toute découverte susceptible d'être utile pourrait trouver des applications militaires, et donc mettre en péril la survie de l'espèce humaine. Ce drame étreint quelques scientifiques en France et à l'étranger, mais il ne peut être qualifié de problème scientifique, conclut Jean Le Ray. Grothendieck, exclu du Collège de France, est en train également de quitter le mouvement Survivre et Vivre. Il va falloir tout reprendre à zéro.
On a été peut-être un peu déçus ou blessés, mais libérés aussi, quand il est parti.
Jean-Paul Malrieux, physicien et membre du groupe Survivre et Vivre.
De le voir partir avec aussi peu de... Bon, après, l'autorité qu'il avait, il y avait cette espèce de force morale. Moi, j'admire beaucoup le courage dont il a fait preuve en allant au Vietnam. C'est pas tout le monde qui a fait ça. Hein. Il y a eu très peu de gens parce que c'était quand même risqué. Hein. C'était une preuve de courage physique. De toute façon, c'était quelqu'un d'engagé, vraiment engagé personnellement, sans crainte.
Et au sein du mouvement, vous avez pu voir des choses de la vie privée de Grothendieck, enfin, à l'époque, comment il vivait?
Bon, je savais qu'il vivait en communauté. Non, on n'était quand même pas dans des rapports de... même Gage n'était pas dans un rapport de proximité.
Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas eu ce pas qui a été passé avec d'autres membres de Survivre où Grothendieck, c'était, on va dire, un collègue militant, mais ce n'était pas forcément un ami? Enfin, qu'est-ce qui bloquait?
Peut-être son prestige, hein, qui était intimidant. Peut-être parce que c'était, je dirais, un homme d'idées. Le primat des idées sur des dimensions plus affectives ou plus jouisseuses, c'est quand même un asset. Cette espèce d'austérité dont Grothendieck était charpenté, forcément, le mettait un peu à distance de relations amicales, ordinaires, comme on peut en développer pour la plupart d'entre nous, quoi.
Est-ce qu'il vous a donné des nouvelles après son départ de Survivre et Vivre, ou il a complètement disparu du paysage?
Non, il a disparu.
Comme tu le sais, j'ai quitté le grand monde mathématique en 1970 à la suite d'une histoire de fonds militaires dans mon institution d'attache, l'IHES. Après quelques années de militantisme antimilitariste et écologique, style révolution culturelle, dont tu as sans doute eu quelques échos ici et là, je disparais pratiquement de la circulation, perdu dans une université de province Dieu sait où. La rumeur dit que je passe mon temps à garder des moutons et à forer des puits.
Université autogérée de Grenoble, octobre 2023. Le repas du midi cuisiné à partir d'un vendu est en préparation.
Plus t'avais de diversité, plus t'avais l'impression de bien manger, plus que ce soit à la campagne. Même si t'avais juste pour manger moins, t'avais plus de diversité, plus de couleur, t'avais l'impression d'avoir de l'électricité.
Je me suis trop énervé tout seul tout à l'heure. J'ai fait des recherches sur une boîte grenobloise qui s'appelle INRED. Et en fait, ils font un peu des trucs sur le campus. Ils disent que c'est pour le bien de l'humanité, ils font des capteurs pour le médical, les voitures, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est la majorité de l'INRED. Là, j'ai encore regardé des trucs, c'est armé, 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 armé. Et en fait, c'est jamais dit, quoi. Et là, ça m'a trop mis les nerfs. J'ai encore regardé, il y a un rapport qui est sorti il y a 3 jours de l'Observatoire de l'armement. En gros, l'INRED a vendu des puces aux Russes 2 jours avant le début de la guerre, en février. Et en fait, ces puces-là, on a retrouvé des drones russes tombés en Ukraine. Et du coup, dedans, ils ont regardé un peu ce qu'il y avait. Il y avait ces puces-là. Et les drones, ils sont fabriqués aussi. Ils ont été fabriqués aussi en février. Alors, il y a ces puces-là dedans, quoi. Et tu te dis, ça se trouve, c'est celle-là, quoi. Et voilà, du coup, ça,
ça conforte. Et là, j'ai encore regardé des trucs sur Internet. L'Union, un fonds européen pour la défense finance l'INRED à hauteur de plusieurs millions d'euros voilà, pour les armes de demain. Et du coup, ça me déprime un peu.
Vous venez d'entendre Fab, pilier de l'université autogérée et fondateur du groupe Grothendieck. Composé d'étudiants, de chômeurs et de démissionnaires de l'université, il publie des textes critiques sur les technosciences et organise des conférences et des actions au sein de la fac de Grenoble. Tout ça sous le patronyme de Grothendieck.
On a fait ça à la fac, on a fait un colloque « Faut-il continuer la recherche scientifique ?» en paraphrasant Grothendieck. Poser cette question-là frontalement, pas trop de monde, un peu récemment, mais sinon depuis les années 70, je crois qu'on l'a pas trop posé, quoi.
Du coup, pourquoi t'as appelé ton groupe le groupe Grothendieck ?
Évidemment, c'est pour mettre les pieds dans le plat avec ce nom-là. Après, moi, ce que j'aime bien chez Grothendieck, en fait, c'est pas Grothendieck, c'est plus le groupe Survivre et Vivre. Pour moi, Survivre et Vivre, c'est des chercheurs qui sont sortis de la naïveté, qui sont sortis de l'enfance du chercheur, quoi, ou assez naïf, ou croyant qu'en fait, la connaissance comme ça pure va permettre l'émancipation de l'humanité. C'est un peu le projet des Lumières, tu vois. Et du coup, des fois, on reste dans ce mythe-là, qui est un mythe. Peut-être qui a fonctionné à un moment donné, quand il y a eu... Au 19e siècle, les premières grosses universités, etc., que ça a permis un peu l'ouverture des connaissances, mais qui, depuis les années 50, franchement, les grands instituts, par exemple français, qui sont les gros instituts, c'est le CNRS et le CEA, sont totalement en lien avec le complexe militaro-industriel, avec les industries, avec l'armée.
Mais du coup, c'est quand la première fois que tu as entendu parler de Grothendieck ?
C'est même plus. En fait, tu vois, la brochure Allons-nous continuer la recherche scientifique, elle traîne dans tous les infokiosques, les tables de presse. Moi, j'en vois souvent. Moi, ce discours, il me parle depuis assez. Je sais même plus. Ça fait partie des figures. Tu as Ellul, Grothendieck, Charbonneau, Ivan Illich. Ça fait un peu partie des figures où tu étudies un peu leur parcours. Tu as lu un bouquin 2, où tu as un peu lu des conférences.
Devant l'université autogérée, des étudiants viennent de finir de manger. Ils préparent une visite guidée de la fac, dans laquelle ils dénoncent les collusions du monde militaire et industriel avec le monde de la recherche. Ils présentent les quelques lieux de résistance sur le campus, à l'image des Jardins d'Utopie, la petite ZAD de l'université.
Et donc les Jardins d'Utopie sont nés en 2006, quand il y a la lutte, une lutte étudiante contre le CPE. Et que du coup occuper ses jardins et du coup vouloir planter des légumes et vouloir une sorte d'autonomie alimentaire quand justement là on était encore dans un contrat qui précarisait les jeunes, c'était assez symbolique de, on pourrait dire, d'empouvoirment des étudiants et étudiantes. Et que du coup c'était aussi symbolique pour rappeler le fait que le campus avant c'était des terres de maraîchage et qu'on n'oublie pas aussi facilement l'histoire. Et enfin, que maintenant, on continue à faire des expérimentations, des savoir-faire dans ces jardins, que c'est toujours un lieu où on règne encore toute une histoire des luttes, mais que c'est une histoire encore à inventer, où toutes les personnes, en fait, ont des anecdotes différentes à raconter sur ces jardins. Et donc, plusieurs fois depuis 2006, ils ont voulu inculper les Jardins d'Utopie, les fermer, les raser. Mais bon, c'est assez difficile, enfin, c'est pas encore hors la loi de planter des patates au milieu d'un campus. Donc ça n'a jamais vu le jour et les Jardins d'Utopie sont encore là.
C'est quand même fou, tu te dis, sur un campus qui se veut écolo, qui a signé avec la LPO. En fait, t'es quand même obligé de batailler, d'avoir un rapport de force hyper important pour garder des jardins, quoi. Enfin, des arbres, tu vois, et un espace qui n'est pas complètement aseptisé. Et, enfin, voilà. La spécificité grenobloise, on va dire ça comme ça, c'est l'informatique et les mathématiques appliquées en lien avec la simulation et pas mal en lien avec tous les secteurs aéronautiques. Dans ce bâtiment-là, IMAG, il y a des chercheurs d'une équipe qui s'appelle l'équipe Humide, interaction homme-machine, qui travaille en lien avec Dassault Systèmes pour fabriquer les cockpits intelligents du futur avion de chasse, le SCAF. Voilà, et c'est un peu symptomatique des recherches grenobloises. Du coup, la spécificité de Grenoble, c'est logiciel embarqué, interaction homme-machine, mathématiques appliquées à l'informatique. Et l'autre spécificité, mais qui ne se trouve pas sur ce campus-là, mais qui se trouve sur un autre campus qui s'appelle la presqu'île scientifique, c'est plutôt la conception de puces, de micro-puces, la nanotechnologie, etc., avec Minatech, voilà, et le CEA. Le CEA Grenoble, c'était la fabrication de puces à la base résistantes aux radiations pour les centrales nucléaires et l'arme atomique. Du coup, c'est un écosystème assez, on va dire, en lien avec à la fois les industriels et à la fois l'industrie de l'armement. Moi, je suis grenoblois, du coup, c'est facile. J'ai fait un master en biologie. Mais moi, j'étais un peu naïf. En fait, moi, vraiment, je suis venu à la fac, pas pour avoir un diplôme, mais vraiment, je voulais savoir c'est quoi la vie. En fait, c'était ma grande question, c'est quoi la vie et tout. Du coup, je dis, je vais faire la biologie. Et du coup, arrivé en fin de master, j'ai fait des stages dans des laboratoires, etc. J'ai fait mes stages dans les laboratoires au CEA. Ils ont des laboratoires de biologie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je veux pas faire ça. Premièrement, je veux pas faire ça, je veux pas rester enfermé dans un labo. Il y a vraiment une ambiance qui est délétère, de compétition à fond. Et c'est surtout, en fait, biologie veut dire biotechnologie le plus souvent. En fait, c'est rare que tu tombes sur des études fondamentales pures en biologie. Vraiment, il y a toujours un côté biotechnologie. Typiquement, nous, on bossait sur des bactéries qui dégradent les polluants. Ok, pourquoi pas. En fait, tu t'aperçois, c'est comment on fait pour modifier des bactéries, du coup faire des OGM bactériens, pour dégrader les polluants. Et cerise sur le gâteau, finalement, je me suis aperçu qu'on était un peu financé par Total, etc. Parce que pour Total, en fait, ça leur fait un peu une image verte, tu vois. Même si ça marche pas très bien, ils disent, regardez, en fait, au lieu maintenant de mettre des produits chimiques, on va mettre des bactéries, c'est naturel, on va dégrader les polluants. Du coup, moi, je me suis barré, j'ai refusé la thèse, en fait.
Vous avez posé la question, à quoi servent les maths? Il faut continuer. À quoi sert la musique? À quoi servent un certain nombre d'activités que les gens font simplement pour leur plaisir? Enfin, quelle est votre conception de l'homme? Je trouve qu'avec votre façon de rejeter totalement la science, vous rejoignez un certain nombre d'obscurantistes. Je m'excuse. Bon, il faudrait pouvoir, comme je vous reçois dans l'estomac pour la première fois, hein, je ne peux pas critiquer vos positions, mais il y a beaucoup de choses chez vous qui mériteraient un débat.
Donc vous me reprochez un nihilisme anti-science. En fait, c'est vrai que dans la mesure où par science, on entend l'activité scientifique telle qu'elle est exercée actuellement, je suis arrivé à la conclusion que par beaucoup de points, c'est une principale force négative dans la société actuelle. Moi, je suis tout à fait convaincu que, disons, les recherches actuelles où on se met à cataloguer des particules élémentaires correspondant à tel et tel opérateurs dans l'espace Hilbert. Je suis persuadé que ces choses-là vont dépérir, non pas par un décret autoritaire de moi ou de personne, mais simplement car le fait suivant, c'est que lorsque les structures actuelles de la société vont s'écrouler, lorsque le fonctionnement ne marchera plus parce que la société industrielle, par son fonctionnement normal même, ces mécanismes sont autodestructeurs, ils détruisent l'environnement, et heureusement pour nous, je dirais, de telle façon qu'ils ne peuvent pas continuer à fonctionner indéfiniment, ils mettent en marche des processus irréversibles, eh bien, il y aura écroulement de nos modes de vie actuels, eh bien, à ce moment-là, les motivations même pour étudier les particules élémentaires disparaîtront entièrement. L'effort que nous voulons essayer de faire, c'est le suivant. Nous avons été élevés dans une certaine culture ambiante, dans un certain système de référence. Et pour beaucoup d'entre nous, d'après des conditionnements reçus dès l'école primaire, en fait, nous considérons que la société telle que nous la connaissons, c'est l'aboutissement ultime de l'évolution, c'est le nec plus ultra. Enfin, c'est en tout cas le cas, je crois, pour une majorité des scientifiques. Mais nous oublions que des civilisations, il y en a eu des centaines et des milliers, des cultures différentes, elles sont nées, elles ont vécu, elles ont fleuri, et elles se sont éteintes. Et notre civilisation, ou la civilisation, parce qu'on ne la considère plus comme la mienne, la civilisation industrielle, n'y fera pas exception. Mais
Une chose qui va au-delà de cette remarque, à mon sens, c'est de réaliser qu'il s'agit d'un processus qui est vraiment devant nous, dans lequel nous sommes déjà engagés maintenant. En fait, la crise écologique, la crise de civilisation, ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ans ou dans 20 ans. Nous sommes en plein dedans.
Après avoir disparu de la scène mathématique avec fracas, nous retrouverons Grothendieck dans le prochain épisode dans le sud de la France. S'il parle de la science comme d'une passion révolue et dangereuse, il finira par y retourner, comme on retourne auprès d'un vieil amour impossible à oublier. À cette occasion, il découvrira avec effroi les trahisons qui entourent son héritage mathématique. Il est devenu un génie marginal et encombrant. Rompre avec la science. C'était le troisième épisode de la Grande Traversée, Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Avec Yegor Gran, Johanna Grothendieck, Céline Pessis, Pierre Deligne, Jean-Paul Malrieux, Martin Handler, Fab et les étudiants de l'Université autogérée de Grenoble. Archives de la conférence d'Alexandre Grothendieck au CERN en 1972 et archives de la manifestation antinucléaire à Bugey en 1971. Les extraits de textes de Grothendieck sont lus par Jean-Christophe Quenon. Réalisation Gaël Gillon, prise de son Martin Troidec, Pierre Henry, Antoine Viossa et Sébastien Royer, mixage Pierrick Charles. Documentation INA Isabelle Fort-Rendu, coordination Christine Bernard. Merci à Rafik Zénine, à Laurent Samuel, Michel Lefebvre et au département vidéo de la BNF, Michel Brouet, Daniel Siboni, Olivier Lefebvre, Félix Loubaton et les enfants d'Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Une grande traversée de Marie Durieux, réalisée par Gaël Gillon.